Bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Oui? Bonjour à tous ceux qui sont en live stream depuis chez vous en vacances. On est content de vous accueillir parmi nous aussi. Ce matin, on continue notre série Jacques a dit. Et ce matin, pour commencer, ce matin, nous allons prendre le texte de Jacques 4. Mais pour commencer, je vais juste introduire l'épître de Jacques. Je regarde la technique avec insistance pour savoir quand. Ah, merci. Voilà. Jacques 4, les versets 1 à 10. J'ai appelé ce message un cœur divisé. Et avant qu'on puisse s'arrêter sur le texte, avant qu'on puisse voir ce que Dieu a à nous dire au travers de ce texte, j'aimerais qu'on puisse juste être conscient d'une ou deux choses que Jacques a à cœur ou que Jacques, dans son contexte, en fait, est influencé. Oui. Voilà, le contexte de Jacques. Jacques, c'est un juif, il pense d'une manière juive, donc il a une pensée qui va être beaucoup influencée par ça. Si tout son livre aura une structure, une manière, il aura une manière d'écrire qui est un peu des fois, si on n'a pas l'habitude, un peu décousue. Il va passer d'un sujet à un autre, ce sera difficile de suivre ou d'avoir une ligne bien, bien distincte dans toute son épître. Ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que Jacques, il est juif, il a l'histoire juive avec lui, il porte ça, il connaît son Ancien Testament, il aime l'histoire d'Israël. Donc c'est quelque chose qu'il a et qu'on va voir au travers de son texte. Son épître, elle est pas mal inspirée des paroles de Jésus, surtout du Sermon sur la montagne. Il y a 110 versets, et sur les 110 versets, il y a 50 références à Jésus et à son sermon sur la montagne, donc c'est une bonne inspiration pour Jacques. Il s'inspire beaucoup de Jésus, et il s'inspire beaucoup du livre des Proverbes, dans le sens où le livre des Proverbes, c'est des petites maximes, des petits enseignements qui durent quelques versets. Et on voit que dans l'épître de Jacques, du chapitre 2 au chapitre 5, il y a 12 enseignements que Jacques nous donne. Donc c'est un épître où Jacques ne va pas s'adresser à une communauté, ne va pas s'adresser à un problème spécifique. C'est, on pourrait dire, la sagesse de Jacques. Jacques nous partage un peu son vécu. C'est l'auteur, donc on présuppose que c'est une des suppositions, c'est que c'est le chef de l'église, pasteur de l'église à Jérusalem, de la première église, qu'il a géré cette église-là pendant une vingtaine d'années, et que c'est son épître où, en fait, il aborde les sujets, les problèmes qu'une église, que des gens peuvent rencontrer, et puis il nous partage un peu son savoir, et ce qu'il a pu entendre, découvrir aussi avec Dieu. Donc son thème central à Jacques, c'est la foi, et non les œuvres, mais c'est une foi authentique, vivante, qui produit tout naturellement des œuvres. Et ce matin, on va s'arrêter sur ce texte de Jacques 4, que je vais vous lire. Jacques 4, les versets 1 à 10. Alors, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Je vais m'arrêter juste déjà sur ces trois premiers versets. Comme je disais, Jacques, ces 12 enseignements, hein, c'est du condensé, c'est du concentré, Jacques. Et pour bien comprendre, Jacques 4, les versets 1 à 10, il va faire tout un développement, il y a plusieurs couches, et Jacques commence avec un constat. Il commence avec un constat de l'être humain, de manière générale. Et ce constat, c'est qu'il y a un désir en lui. Il convoite, il désire quelque chose qui va pouvoir qui va pouvoir faire à l'être humain se sentir bien, vivant. Il y a un désir. Ce mot désir, en fait, c'est ce mot passion dans le grec. C'est vraiment cette idée de chercher des plaisirs qui sont à l'extérieur, des plaisirs dans le monde qui vont venir me combler, venir faire que je me sente bien, que je me sente heureux, que je me sente en entier. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on voit dans ces premiers versets qu'il y a une tension qui existe entre l'être humain qui va chercher à assouvir un besoin d'obtenir quelque chose qui lui manque et le fait qu'il ne va jamais réussir à le posséder. Il va le dire, hein, vous convoitez, mais vous ne possédez pas. Vous ne pouvez pas obtenir, vous ne possédez pas. Et puis, cette idée de ne pas pouvoir arriver. Et en fait, j'ai regardé toutes ces négations. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'arrive pas à aller à l'objectif. On a ces passions, c'est comme des rêves. C'est comme, en fait, si je vous donne des exemples concrets, on pourrait se dire, bah, je vais me sentir enfin quelqu'un lorsque j'arriverai à parler devant des gens sans forcément avoir mes notes devant moi. Ça sera... C'est ce moment-là que je serai un vrai prédicateur. Et j'aurai toujours besoin des notes et je vais chercher. Je vais chercher à dire, mais c'est ça qui va me définir, c'est ça qui va me faire du bien et je vais mettre ça là-dedans. Le problème, c'est que je vais toujours avoir ce désir-là, mais je ne vais jamais être satisfait pleinement. Je ne vais jamais pouvoir obtenir ce que mon désir, ma passion suscite en moi, ce désir ardent qui va chercher quelque chose à l'extérieur de moi, ne peut pas être satisfait. Donc à chaque fois qu'on l'atteint, on veut plus, on veut plus. Et ce désir n'arrête pas d'augmenter. Et j'écoute des musiques de jeunes, puisque je suis pasteur jeunesse, j'essaye de me renseigner à ce que écoutent les jeunes. J'écoute des rappeurs assez jeunes qui s'appellent Big Flo et Oli. Ils rappent et puis alors... C'est encore très respectueux comme rap, donc moi j'écoute ça volontiers. Et je trouvais intéressant parce qu'ils ont 26 ans et ils ont rempli deux stades au Zénith, plus de 20 000 personnes, et ils ont même un documentaire sur eux qui est en train de sortir. Et il a dit une phrase, un des deux a dit une phrase, « Accomplir ses rêves, c'est les tuer. » Et il dit ça, et derrière il dit « Mais en fait, j'ai accompli mon rêve et derrière, il n'y a plus rien. » Et il sentait un besoin d'avoir plus. Il sentait quelque chose qui le poussait à dire, mais c'était qu'un rêve. Finalement, c'est que ça, deux zéniths. Alors, on peut se dire, ouais, non, c'est quand même gros. Mais c'est que ça. Et en fait, ça va pousser toujours. On ne va pas pouvoir le posséder. Et c'est un constat que Jacques nous montre. Au verset 3, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Le mot satisfaire, c'est une traduction possible, mais le mot exact, c'est dans le but de dépenser ce que vous avez reçu. Comme une dépense qui est mal calculée, comme quelque chose qui va être dilapidé, comme quelque chose qui va partir, qui va s'envoler. Et ça résume bien l'être humain, ça résume bien le besoin, un déchirement, une tension de besoin d'avoir... Un accomplissement. Peut-être là, un accomplissement dans l'idée d'avoir un bon job, lorsque j'arriverai à travailler, lorsque j'aurai un bon cadre, un bon salaire, une famille, des enfants, une maison, je sais pas, une moto. Lorsque j'arriverai à atteindre ce point-là, je me sentirai bien. Et Jacques nous montre que c'est la condition humaine. C'est ce vide-là qu'on peut avoir en nous. Et j'ai un auteur que j'aime beaucoup, qui résume bien cette pensée en une phrase. Donc je vais vous la lire. C'est C.S. Lewis. Donc C.S. Lewis a écrit les Narnia, pour ceux qui situent pas C.S. Lewis. Donc Narnia avec ce lion qui s'appelle Aslan, ça dépend des versions. Voilà, je l'aime beaucoup parce que on a appelé notre chat Aslan. En son honneur, j'aime beaucoup cet auteur. Enfin, bref. Donc, C.S. Lewis dit « Si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. » C.S. Lewis résume fortement ce désir qu'on a en nous et qu'aucune expérience peut nous satisfaire. Et en fait, Jacques est en train de traiter ce problème, en train de dire, voilà un souci qu'on peut avoir, c'est ce cœur divisé, ce cœur qui va vouloir chercher sa satisfaction en dehors de lui-même, en dehors de Dieu, en dehors du sacrifice de Jésus. Et donc, Jacques s'adresse quand même à des chrétiens. Donc on arrive au verset 4 à 6, que j'ai appelé l'accusation de Jacques. L'accusation, et il commence en disant « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu ? Celui donc qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parlant en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Il s'adresse à des chrétiens. Il s'adresse à des chrétiens qui sont chrétiens depuis longue date, des juifs qui sont convertis, qui par le sacrifice de Jésus, l'Ancien Testament fait sens et il y a un nouvel éclairage. Et il s'adresse aussi à des gens qui découvrent Jésus pour la première fois. Et il commence par le mot, verset 4, « adultère ». C'est fort. C'est fort comme terme, surtout que sur toute la suite de l'épître, avant et puis après, Jacques appelle son auditoire « frère ». Frères et sœurs. Là, ça veut dire qu'il est bien remonté. Hein. Vous voyez, c'est adultère. Dans le sens, c'est là que je trouve intéressant quand il prend ce terme d'adultère que vous êtes. Moi, je vois Jacques qui repense en fait à sa condition, à l'Ancien Testament, avec le peuple d'Israël qui a fait alliance avec Dieu, qui a dit « on veut te suivre, on veut marcher avec toi, notre cœur t'est dévoué, on veut aller, on veut. » Et il y a des idoles, il y a des problèmes, le peuple en fait se dévie, se détourne de Dieu. Et dans tout l'Ancien Testament, lorsque Dieu envoie des prophètes, un terme qui revient souvent pour appeler la situation du peuple de Dieu à ce moment-là, c'est adultère. C'est femme, épouse infidèle, donc adultère. Épouse infidèle que vous êtes. Et en fait, c'est vraiment cette... Il vient dire, mais ne savez-vous pas que l'amour du monde est contre Dieu. Il vient appuyer sur ça, et ça fait écho, ce passage-là fait écho à Matthieu 6, le sermon sur la montagne, où on voit Jésus parler, et Jésus qui nous dit à Matthieu 6, verset 24, que l'on ne peut pas servir deux maîtres, qu'il faudra choisir, servir entre Dieu ou Mammon. Il faudra faire un choix. Et là, c'est ce choix-là qu'il est en train de rappeler à ses chrétiens, à son public. C'est qu'il y a un choix à faire. C'est qu'il faut faire ça. Il faut faire ce choix. Donc verset 5, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ?» Donc c'est ce que je vous disais, c'est ce rappel de l'Ancien Testament. Parce que tout l'Ancien Testament, on a cette histoire qui revient encore et encore. Dieu fait alliance avec son peuple. Son peuple veut le suivre, son peuple s'écarte de son chemin, son peuple revient vers lui. Et il dit, mais est-ce qu'on n'a pas appris, est-ce que vous ne vous rappelez pas de ce que le peuple, ce que nos ancêtres ont vécu? Et donc là, il est toujours en train de poser le jalon en disant, mais rappelez-vous simplement de ça. Et on arrive au verset 6, au cœur du problème. Jacques arrive au cœur du problème, de pourquoi l'être humain va chercher son besoin ailleurs, de pourquoi l'être humain veut se découvrir lui-même, pourquoi l'être humain aime le développement personnel, pourquoi l'être humain veut être quelqu'un, c'est l'orgueil. Il va le dire en citant un proverbe, Proverbe 3, verset 34, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et on voit que l'orgueil, c'est... Aujourd'hui, on pourrait dire que, je recherche mes notes, l'orgueil, c'est avoir une trop haute opinion, une trop haute estime de soi-même, de ses moyens, de ses mérites, quitte à mépriser les autres, quitte à mépriser ce que les autres peuvent me donner d'une façon hautaine. C'est une autosatisfaction de moi-même. Je m'autosuffis, ça va. Et aujourd'hui, dans le travail, le côté orgueilleux, c'est dire, mais j'ai pas besoin de me reposer, j'ai pas besoin de... Je ne suis plus un être humain, j'ai été affranchi de tout ça. Je peux faire plus, je peux aller plus loin, je suis capable. Et ça allait au-delà de ça. Et l'orgueil est le centre et la cause de ce pourquoi on va chercher en dehors de nous, ce pourquoi on va chercher en dehors de Dieu, puisque l'orgueil est la motivation première du péché qui va nous détourner de Dieu. C'est ce désir qui nous détourne de Dieu, ce désir d'être nous-mêmes Dieu, c'est l'orgueil. L'orgueil est là, il est en nous, et Jacques nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il va faire grâce aux humbles. Et ce mot « grâce », je le trouve incroyable, parce que si on revient au verset 1, il y avait l'idée des passions. Les passions, c'est les plaisirs de la vie, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est des émotions, c'est tout ça. Ces passions, un peu dans le grec, c'est hédonisme, c'est les plaisirs de la vie. Et le mot grâce, si on recherche un petit peu et on regarde, la grâce, donc, c'est un état qu'on reçoit de Dieu qui nous donne, mais par cette grâce, on a accès. Et je trouvais vraiment intéressant dans la définition que j'ai vue de ce mot grâce, on a accès à de la joie, à du plaisir en Dieu, à de la douceur, à de la tendresse. On est saisi. Et je trouvais ça fort parce que tous les trois premiers versets, on n'arrive pas à saisir quoi que ce soit en nous. Tout ce qu'on cherche à l'extérieur de nous, on n'arrive pas à le saisir. Ça nous échappe. C'est comme un savon qui nous échappe des mains. Mais dès que cette grâce, dès qu'on on prend cette posture d'humilité, d'humble, la grâce nous trouve et cette grâce vient nous combler, cette grâce vient nous donner, elle nous saisit. C'est vraiment ce contrepoids, ce total inverse que Jacques est en train de nous montrer. Il est en train de dire, les gars, la clé, c'est le cœur humble. La clé pour ne plus avoir un cœur divisé, la clé pour contenir, pour suivre Dieu, pour être avec Dieu, c'est ce cœur humble. Et c'est la suite. Je veux passer ma slide. Je n'arrive pas à passer ma slide. J'ai passé ma slide, merci. Jacques 4, versets 7 à 10, la solution de Jacques. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, que votre joie et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors ce matin, je suis conscient en prenant ce texte que je n'ai pas pris le texte le plus joyeux au monde, hein. Mais c'est un texte qui est tellement fort, qui rappelle une vérité tellement forte que l'être humain va vouloir chercher, je vais vouloir chercher, même en ayant donné ma vie à Jésus, même si ça fait 8 ans que je me suis baptisé, que j'ai donné ma vie à Jésus, 9 ans, j'ai peur des 10 ans, j'ai l'impression que ça sera une étape. Mais 9 ans, et que oui, j'ai donné ma vie à Jésus, je l'aime, je le veux, je veux plus de lui dans ma vie, je veux le suivre, je veux faire sa volonté. Je sais que c'est lui qui sait ce qui est le mieux pour moi, je sais que c'est lui qui me connaît le mieux, c'est en lui que je trouve mon identité, c'est en lui que je vais trouver mon épanouissement, c'est en lui que tout réside. Et je sais que c'est Jésus qui vient faire ça à la croix, qui vient m'ouvrir ce chemin, qui brise, qui déchire ce voile, je le sais tout ça. Mais mon cœur, si je ne veille pas, si je ne suis pas humble, si je ne fais pas attention, reste malgré tout des fois orgueilleux. Et je me retrouve dans des situations où j'ai un cœur divisé, où j'ai un cœur, comme Paul va dire, où je fais des choses que je ne veux pas, où je suis en tension, parce que je me retrouve à devoir combattre, à avoir une tension en moi. Et c'est la condition de l'humain. Jacques nous dit, voilà comment vous devez faire. Voilà ce que je vous soumets, voilà ce que je vous propose. Il commence en disant, soumettez-vous. Alors cette soumission, c'est une soumission dans cette idée de voir Dieu comme roi, de voir Dieu comme autorité, de se mettre. Ce n'est pas une soumission où je n'ai pas mon mot à dire, où je suis enfermé, où je suis esclave et je n'ai rien à faire. C'est une soumission d'un enfant qui va vers son père. C'est que mon papa, il a l'autorité. C'est lui. Donc, quand j'ai un problème, comme un enfant, c'est mon papa, c'est le plus fort. Donc je vais courir vers lui et je vais me soumettre à lui. Je me soumets à son autorité, je me soumets à sa bonté, à qui il est. Et c'est là que c'est fort, parce que on voit que Dieu, là, à ce moment-là, si on se soumet à Dieu, ce n'est pas juste un beau principe, c'est pas juste, ça ne peut pas être juste une théologie des valeurs, ça, c'est une personne qui va être au-dessus de moi, qui va me protéger. Et en même temps, en parallèle de ça, il dit « Soumettez-vous au diable, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable », pas l'inverse. « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable ». Cette résistance, c'est dans Jacques 1, il dit bien Jacques 1, verset 9, on l'a vu avec Myriam, dans l'épreuve, on vit l'épreuve, et dans l'épreuve, qu'on ne soit pas tenté d'accuser Dieu, que ce soit lui qui nous lance dans l'épreuve, mais que l'épreuve, en fait, fait écho à quelque chose en nous. Et cette épreuve, c'est comme un hameçon qui vient tirer quelque chose en nous. Et ce mal, en fait, c'est comme... cet orgueil, et on vient nous tirer et on vient nous pousser là-dedans. Et en fait, cette idée de résister au diable, c'est de ne pas retomber là-dedans, c'est de dire je ne suis pas d'accord de me laisser repartir là-dedans. Et cette résistance, elle se fait, c'est le même terme c'est le même terme que dans Proverbes 3, 34, lorsque c'est écrit Dieu résiste aux orgueilleux, c'est le même mot. C'est le même mot. Cette résistance, c'est se faire opposition au diable. Et ce diable, c'est celui qui va venir diviser, c'est celui qui va venir mettre cette incertitude. Donc, c'est dire, OK, non, je refuse de tomber là-dedans. Je sais que le travail, je peux m'accomplir là-dedans. On est en Suisse. La deuxième question qu'on pose à quelqu'un qu'on rencontre, c'est tu fais quoi dans la vie ? Donc, le travail a une importance. Donc, c'est dire, OK, mais non, je ne veux pas tomber là-dedans. Je ne veux pas que ce soit mon identité. Je vais me mettre en opposition. Je résiste, je me soumets à Dieu, et le résultat, il est fou, j'invente rien, j'ai pas besoin de vous l'expliquer plus loin que ça, et le diable fuira loin de vous. On s'arrête sur le mot fuir, une fuite du diable. C'est pas je m'en vais, c'est pas j'abandonne, c'est pas oh zut, je reviendrai plus tard. Il fuit, une fuite. Et ce qui est assez fou, c'est que se dire que s'il y a une fuite, ça veut dire que le diable se sent en danger. C'est-à-dire qu'il y a un danger pour lui. C'est l'idée de la fuite. Mais moi, là, Jacques, il ne m'a pas dit « Mets-toi en position contre le diable et il fuira. » Ce qu'il me dit, c'est « Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Laisse Dieu, laisse ton papa gérer le problème et toi, tu vas voir qui va. » Et en fait, finalement, quand l'ennemi arrive, quand ce besoin, cet orgueil, tout vient... et je me soumets à Dieu, j'ai ce cœur humble, l'ennemi ne se retrouve pas face à moi et en train de me dire « Alors, Francesco, ah oui, il n'a pas eu de père, donc le besoin de reconnaissance, on va tirer là, on va essayer de tirer là. » Je me soumets à Dieu, je dis « Seigneur, toi, tu es mon père. » Et là, il ne se retrouve pas face à moi, il se retrouve face à Dieu. Et là, le diable, face à Dieu, il n'a qu'une option, fuir. C'est pour ça qu'il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Je ne sais pas si vous aimez ce que je dis, mais moi j'aime beaucoup ce que je dis ce matin. Ça m'encourage en tout cas. J'espère que vous êtes encouragés, mais moi ça m'encourage. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Et il donne ces deux options. Il dit « Voilà, soumets-toi à Dieu, approche-toi de Dieu ». Tu peux t'approcher de Dieu comme on l'a chanté, comme on nous l'a dit, parce que Christ est mort à la croix, il nous ouvre la voie, on peut s'approcher de Dieu, non par mes exploits ou par mes œuvres, mais parce que je crois en lui, parce que je suis son fils, et simplement, ce matin, peu importe l'état, l'émotion, ce que vous pouvez vivre, vous êtes assez bon pour Dieu, pour vous approcher de lui. Approchez-vous de lui, et il s'approchera de vous. Et après, en fait, il va expliquer, nettoyez vos mains. Et là, l'idée des mains, c'est purifier vos actions, c'est revoyer vos actions, qu'est-ce que vous faites dans la vie. C'est l'idée des mains, c'est l'action. Purifier vos cœurs, donc le cœur, on est dans l'idée de la volonté. Homme irrésolu, dans le grec, on est aussi plus dans cette idée de âme. Je l'ai marqué, j'ai trouvé ça fou. Il faut que je vous partage ça. Double âme, âme doublée. C'est pas homme irrésolu, c'est l'âme doublée. C'est comme, c'est vraiment cette division en lui. Cette âme doublée, c'est ce cœur irrésolu. Sentez votre misère, soyez dans le deuil. Et là, le verset 9, c'est la repentance. C'est cette humiliation devant Dieu, une humiliation où on reconnaît en fait son besoin de Dieu. Et l'humilité, c'est ma conclusion ce matin. Avoir un cœur humble, en fait, ça veut dire quoi? Avoir un cœur humble, être humble, ça ne veut pas dire ne pas avoir de valeur, ne pas reconnaître ce que Dieu nous a donné. C'est pas ça. Ça, c'est une fausse humilité. De dire je ne suis rien, je ne peux rien. Quand on me dit merci Francesco, ou on dit, on va dire à l'équipe louange, merci pour la louange, je dis non, mais c'est pas moi, c'est Dieu. C'est que Dieu. Oui, c'est Dieu qui touche les cœurs, mais merci parce que, merci Nat d'être venu ce matin, merci d'avoir pris ta guitare, merci d'avoir pris ça. Et l'humilité, c'est de dire, mais voilà, oui, j'ai ces dons-là, j'ai ça, et je les mets au service. Mais ce matin, c'est pas Nat qui a touché les cœurs, c'est Dieu. Et l'humilité, c'est de s'arrêter de dire, ça c'est moi, c'est mon travail, c'est ce que je suis, et j'ai besoin, et ça c'est ce que Dieu fait. L'humilité, c'est connaître sa place. C'est la racine du mot humilité, c'est connaître sa place. Connaître sa limite, savoir que oui, j'ai besoin de Dieu. Oui, j'ai besoin de lui dans ma vie, j'ai besoin de lui pour que ce vide soit rempli. Et l'humilité, à dire je suis humble, c'est ne plus être humble quelque part. Et en fait, l'humilité, ce n'est pas un état à atteindre, c'est un chemin, une poursuite qu'on va toujours de plus en plus parce qu'on réalise toujours de plus en plus notre place et on connaît de plus en plus notre place. Donc la solution que Jacques nous donne, ce que Jacques veut nous dire au travers de ce petit enseignement hyper dense, c'est que l'humilité garde notre cœur centré sur Jésus. Il nous permet d'avoir un focus. Encore plus aujourd'hui avec trop de nouvelles, trop d'informations, trop de choses qui peuvent partir dans tous les sens. On peut dire à chaque jour suffit sa peine, mais chaque jour il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Et l'humilité va garder mon cœur centré sur Jésus. C'est l'humilité, cette condition de mon cœur qui va dire oui Seigneur, c'est toi qui vas venir combler, c'est toi qui vas venir ça. C'est toi qui vas venir combler mon désir profond. Et j'ai pris, je pense, un des seuls textes dans Jacques où il est dans l'être et pas le faire. Et j'aime beaucoup ça, parce que Jacques va toujours nous pousser à dire « il y a une action, il y a une action, il y a une action à ce que tu crois, il y a une action à ce que tu penses, il y a une action de la chose, de ce que tu vis à l'intérieur. » Mais sur ce passage-là, il s'arrête juste et dit « mais voilà ce qui doit se vivre à l'intérieur, voilà l'état du cœur de l'être humain et voilà la solution pour que l'action, pour que la foi reste authentique, pour que notre cœur reste centré sur Jésus, soyons humbles. » Et nous, ce matin, je nous pose la question. Nous avons besoin de plus de compréhension de notre état. Je pense que oui, j'ai besoin. Je n'ai pas encore saisi à quel point j'ai besoin de Dieu encore ce matin. Ce matin, en préparant cette prédication, en préparant ce texte, en le creusant, je réalisais à quel point j'essayais toujours, encore et toujours, de faire sans Dieu. Et dire, mais c'est vrai que, mais même, voilà, on est pasteur jeunesse, on travaille, on sert Dieu, mais même là-dedans, on se dit, mais je veux garder cette humilité, je veux être proche de toi. Et c'est un travail, c'est quelque chose. Et ce matin, j'aimerais juste vous inviter, alors qu'on va prendre un chant, je veux vous inviter ce matin à venir offrir à Dieu qui vous êtes. Ta vie simplement, humblement, et venir vers Dieu et se soumettre à lui, s'approcher de lui et dire « Seigneur, voilà où j'en suis, voilà qui je suis, voilà ce qui se passe. » Et peut-être que ça fait longtemps que tu ne l'as pas refait, que ça n'a pas été fait, et j'invite ce matin à le faire de nouveau. Peut-être que c'est la première fois ce matin, et je vous invite à le faire si c'est la première fois. Simplement à dire, Seigneur, voilà, je veux m'approcher de toi comme un père bienveillant. Je m'approche vers toi, je me soumets à toi. Et pendant ce temps de louange, pendant ce chant, je vous invite simplement à faire cette démarche, face à Dieu. Tout simplement prier. Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu nous fais de pouvoir vivre à tes côtés. Seigneur, je te prie que ce matin, on puisse se tourner vers toi et que nos cœurs puissent être centrés sur toi. Que nos regards puissent être centrés sur toi, Jésus, sur ce que tu fais à la croix et que nos désirs, que tous nos désirs, nos besoins se centrent sur toi ce matin. Car tu as les paroles de la vie, tu es la source de vie et tu es celui qui va nous restaurer ce matin. Amen.